Chapitre 26. Ma lanterne s'éclairait progressivement. Le tueur avait subi un choc émotionnel d'une violence rare. Un choc qui lui avait arraché la mémoire. Pourtant, les souvenirs avaient persisté quelque part, piégés entre l'étoile complexe de son inconscient. Alors parfois, ils affluaient par débris, dans les méandres de la nuit, au travers d'images codées, de hurlements. Ces hurlements que Suzanne poussait, elle aussi, dans nos draps trempés. Le choc émotionnel. Les fractures cérébrales. Quel parallélisme troublant. Le pire des assassins et ma femme, fondus dans un même moule d'oubli. Horrible signe du destin. Pour en revenir à Malborne, il avait tout fait exploser chez ce Vincent, 25 années plus tard, par ses consultations harassantes. 15 ans d'oubli, de joie, de peine, de mensonges ressurgis en un quart de seconde. Une véritable bombe. Aujourd'hui, Vincent se vengeait, déchirait les cicatrices de son passé à renfort de sang et de cruauté. L'hypnotiseur avait raison. Ces personnes, sur la liste du déluge, établissaient le lien avec son enfance. Pour remonter au meurtrier, il fallait aller à la source, 25 années en arrière, là où tout avait commencé. Grenoble. Leclerc m'avait laissé carte blanche pour un déplacement express vers la capitale des Alpes. Il fallait que je sente la ville frémir sous mes pieds, que j'arpente son CHR, puis l'hôpital psychiatrique des Tisserands. Je voulais voir la chambre de son coma, de mes yeux, converser avec ses médecins de l'époque, donner un nom à ce Vincent, et mettre des visages sur les 52 identités de cette liste. Vincent revivait son enfance, la clé se trouvait là. De retour chez moi, j'apprêtais quelques affaires pour ma longue chevauchée nocturne. Chemise, sous-vêtements de rechange, nécessaire de toilette. L'excitation me brûlait les lèvres, en même temps qu'une très grande haine pour cet inconnu que je traquais, cet homme qui, du fin fond de sa raison, rachetait par la voie du crime ses années de vie volées.
« Tu t'en vas où comme ça, man? Vacances ?»
Willy venait de se jeter dans mon fauteuil, son éternel mégot aux lèvres. Il n'avait toujours pas changé de pyjama, stupide poids bleu sur fond noir. « Tu tombes bien, » répliquai-je en enfournant dans mon sac des petits beurres, trois bananes et mes comprimés de chloroquine. « Je vais te donner le numéro de téléphone d'un collègue, ainsi que mon numéro de portable. Si tu aperçois la petite, tu nous appelles immédiatement. Tu devras essayer de la retenir jusqu'à ce que mon équipier arrive. » Willy dessina un 8 avec ses grosses lèvres.
« Ouais, ça pourrait me causer des tas d'emmerdes. Imagine quelle gueule. Je suis un pacifique, moi, man. »
« Dans ce cas, tu la suis. Je veux savoir où elle habite. Je peux compter sur toi? C'est très important. » Le Rasta fit jouer ses tresses de brefs mouvements de tête.
« Tu penses bien, je suis avec toi, man. Ma grand-mère, elle t'aimait bien. Moi aussi, je t'aime bien.
Arrête, tu vas me faire pleurer. » Il dévoila ses dents impeccables.
« Tu reviens quand ?»«
Demain soir, probablement. Après-demain ou plus tard. » Je descendis une première fois au sous-sol pour ranger mon sac dans le coffre, puis remontai au troisième, chauffer une cafetière de café bien noir, que je transvasais dans un thermos. Après avoir poussé Willy à l'extérieur, gentil Willy, mais un peu lourd à la longue, et fermé la porte d'entrée, je ressentis comme une grande victoire sur moi-même. Mes doigts tremblaient moins et je n'éprouvais pas, tout au moins dans l'instant, cette envie de me gaver de pilules. Fallait-il y voir un signe d'amélioration? La rectitude de la 6. Étoile dessus, bitume dessous. Un petit air des Red Hot à la radio, en sourdine de mes pensées incessantes de toutes ces images, ces dessins, ces flashs de sang. L'enquête grandissait encore en moi, avec la fougue d'un lyre sauvage. Elle chassait l'homme faible et appelait le flic sans cesse. Ce flic qui n'avait besoin d'aucun cachet, juste cette soif d'hémoglobine. Mais replié dans les ténèbres, l'homme songeait encore à son frêne, lacéré de coups de couteau. L'homme voyait les yeux blancs bleus de Malborne, ses lèvres craquelées murmuraient des phrases enterrées, douloureuses. Vincent. Vincent qui saignait du nez par la force de son psychisme, instigmatisé, puis ce cœur à droite comme l'enfant. Une telle rareté.
Tu n'arrêtes pas de penser aux autres. Et à nous, tu y penses? Ta fille, tu sais combien elle souffre dans cette obscurité perpétuelle sans toi?
J'augmentai le volume de l'autoradio, ouvris les deux fenêtres arrière. L'air s'engouffra dans un grondement de locomotive. Les voix s'estompèrent un peu avant de revenir en fanfare. Le seul moyen pour les supporter restait de leur tenir la conversation. 4 heures à manger de l'asphalte, à broyer du noir, à subir le poids des reproches, à entendre rire et chantonner dans ma tête. J'avais roulé plusieurs fois sur la bande d'arrêt d'urgence, un peu ailleurs, mais heureusement, les rugosités m'avaient éjecté de cette torpeur dangereuse. Une aire de repos arriva enfin, une 50aine de kilomètres avant Lyon. Je mis mon clignotant. Mes vêtements étaient imprégnés de sueur et de fumée de cigarette. Une vague odeur de café tiède fleurissait de l'habitacle. Sur le parking, des camping-cars, des caravanes, quelques chauffeurs fatigués, leurs femmes et marmots endormis à leur côté. Plus jeune, j'adorais quand mes parents se garaient sur ces espaces perdus, sous l'arc fantastique des étoiles. J'en garde au cœur le goût des vacances et une grande part de rêve. Un temps si lointain. Alors que je sortais m'étirer un peu, des coups sourds résonnèrent contre de la tôle. Puis une petite voix, à peine audible.
« Au secours ! Au secours !»
Ça provenait d'un coffre. Le coffre de ma voiture.
« Mince, Franck !»
râla la gamine lorsque j'ouvris.
« T'aurais pu t'arrêter avant, j'étouffe là-dedans !»
Robe de chambre bleue et chaussures rouges. La fillette sauta hors de sa cachette, s'étira, les deux bras tendus au-dessus de sa tête, alors que je restais là, sans réaction, complètement abasourdi. Puis la colère afflua à mes joues. Je cognais avec une rage folle contre une poubelle. « Merde, 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 qu'est-ce que tu fais ici ?» Je la dévorais d'un air mauvais, les dents grinçantes, tandis qu'elle regroupait ses mains sous son menton comme pour se protéger.
« Tu me fais peur, Franck. Tu ne vas pas me frapper, hein ?»
Le front baissé, j'allais et venais avec l'acharnement d'un prédateur furieux. « C'est toi qui me fais peur. Qu'est-ce que tu me veux ? Dis-moi pourquoi tu es entré dans ma vie. Et épargne-moi tes airs de chien battu. » Un type qui sortait de la cafétéria se retourna dans ma direction avant de se fondre dans la nuit.
« Mais c'est mon chat. L'autre fois, rappelle-toi, j'étais enfermé dehors. »«
Mensonge. Tu n'habites pas au 7. J'ai vérifié. Cet appartement est inoccupé. » Ses doigts fluets montaient et descendaient sur sa maigre poitrine, au rythme de sa respiration. Elle rentra la tête entre les épaules.
« Mais je te parlais pas du 7 de ta résidence. L'autre 7, dans la résidence des Hibiscus, l'immeuble d'à côté. »
« Arrête de mentir.
Je suis venu chez toi parce qu'on m'avait dit que tu avais des trains miniatures partout dans ton appartement. Et moi, j'adore les trains miniatures. J'ai toujours rêvé d'en avoir, mais maman ne veut pas m'en offrir. Elle ne m'offre jamais rien. »
« Pauvre petite. On finirait presque par s'apitoyer. » Je dévoilais la cicatrice de mon avant-bras. « Et ça, tu peux m'expliquer ? Mon voisin m'a raconté que tu discutais avec la télé, que tu voulais me nuire. » Elle tortilla son vêtement sous ses paumes menues. Des larmes gagnirent ses yeux.
« Héloïse et moi, on voulait te protéger. Ton sang malade, tu te rappelles ?»«
Suffit avec ma fille. Ma fille est morte. Elle n'est plus ici, tu comprends ?»«
Oh, Franck, je ne veux pas te faire de mal. Si tu savais... »
Elle se jeta contre moi et me serra fort, délivrant des torrents de larmes. Je luttais pour ne pas céder à sa douceur entêtée, mais n'y parvins pas. Il restait une flamme au fond de moi, qui brûlait encore. Je me baissai à sa hauteur et lui caressai les cheveux. « Ça va aller, d'accord ?» Elle acquiesça, étranglée dans ses sanglots. « Tu entends des voix dans ta tête, c'est ça ?»«
Tout le temps, »
murmura-t-elle en étouffant un gros chagrin.
« Elle ne me laisse jamais tranquille. Parfois, elle m'ordonne de faire des choses pas bien. Toujours la même chose. Héloïse, elle joue avec moi, elle est gentille. »
Je la portais dans mes bras et la forçais à me regarder. « Tu te souviens l'histoire du frêne et du chêne, le cauchemar que j'avais eu ?» Elle opina lentement. À qui tu en as parlé?
Mais à personne. Je t'ai demandé de m'expliquer, t'as jamais voulu. Je sais même pas ce que ça signifie.
Bon. Tu dois me donner ton nom. Des amis à moi vont prévenir ta mère, lui dire que tu vas bien. Puis on s'occupera bien de toi.
Non, non, je veux plus la voir. Elle n'est jamais là, tout ça, c'est sa faute. Je veux rester avec toi.
Mais même si je le voulais, je ne peux pas te garder.
Je t'embêterai pas, promis,
susurra-t-elle en plaquant sa paume ouverte sur sa poitrine.
Je vais m'asseoir dans la voiture sans rien dire. Tu t'apercevras même pas de ma présence.
Je la posai à terre et lui attrapai la main. C'est pas la question. Tout est tellement plus compliqué dans la vie des grands. On va aller à la cafétéria et appeler la police. Si tu ne veux rien me confier, je ne peux plus rien pour toi. Elle se débattit avec une rage entêtée.
Non, garde-moi avec toi, s'il te plaît.
Pas question. Sais-tu que je pourrais avoir de gros ennuis?
Justement, lâche-moi ou je raconte que tu m'as emmené de force avec toi.
Je lui serrai le poignet plus fort.
« Quoi ? Arrête ! Arrête ou je hurle ! Je te jure que je vais hurler !»
Je levai les mains en l'air et reculai de 3 pas. « D'accord, d'accord. Calme-toi.
Regarde mes ongles, fit-elle avec un pli mauvais sur les lèvres. J'ai gratté dans ton coffre. Tu es sur une aire d'autoroute avec une gosse en robe de chambre et tu ne connais même pas son nom. Les voix m'ont dit de cacher des choses chez toi, sous ton matelas, dans tes placards. Elles ont de sacrées bonnes idées parfois, les voix.
Je virevoltais sur moi-même, les doigts brandis au ciel. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as planqué, petite peste ? Elle étira la bouche de ce sourire dangereux.
Les culottes de petite fille. Ils vont croire qui, à ton avis ? Et ce n'est pas parce que tu es policier.
Je dus lutter contre de très grandes forces pour ne pas la gifler. J'étais bouleversé, désorienté par le chantage d'une mioche. Chanter pourquoi ? Je n'avais rien à me reprocher, absolument rien. Et pourtant, elle me tenait par le bout du nez. J'avais l'IGS sur le dos, Leclerc m'observait d'un œil curieux ces derniers temps, comme d'ailleurs la plupart de mes collègues. Les apparences jouaient méchamment contre moi. Des culottes de petite fille. Elle avait le diable dans le corps. Comment m'en débarrasser si loin de Paris ? Hors de question de la ramener, mais alors, la traîner avec moi dans une enquête criminelle ? Et si sa mère la recherchait ? Je zuotais ma montre. 3 heures du matin. Certainement pas le moment de déranger qui que ce soit. On me prendrait pour un dingue. Excusez-moi de vous déranger, mais vous savez quoi ? Il y a une fillette embusquée dans ma bagnole. Elle ne veut pas me dire son nom, elle veut juste rester avec moi. 7 immeubles des Hibiscus qu'elle prétendait. Mentait-elle encore une fois ? Bientôt, j'en aurai le cœur net. Très bientôt. Elle causerait. Ah, ça oui. Allez, monte là-dedans. Et je ne veux pas t'entendre, compris ?
Oui !
Elle effectua un aller-retour vers le coffre.
Mon livre de fantômette. Tu vois, je ne l'ai pas oublié. Héloïse aussi les aimait bien, ces histoires.
J'inspirais profondément. Décollais d'un mouvement bref la chemise trempée de mon corps et démarrais. L'autre, à l'arrière, chantonnait Stewball, l'histoire de ce cheval blessé. Je la chantais tous les soirs à Héloïse, en l'abordant. Comment cette gamine pouvait-elle savoir ? Cœur à droite, elle est le tueur. Freine la serrée. Ses apparitions nocturnes, sa violence, sa gentillesse. Sa mère jamais croisée. L'appartement vide du 7. 7 ? Encore 7 ? Quelque chose d'irrationnel imprégnait cette histoire, mais quoi ? Malgré ma colère, mon incompréhension, je ne pus m'empêcher dans le rétroviseur de la fixer avec cette tendresse d'instinct, de la voir s'ensommeiller, alors qu'autour les collines gonflaient, les vallons se creusaient, déjà tourmentés par le grognement lointain des Alpes.